à l'heure. Les élites débordées par le numérique. 26 décembre 2013, la journaliste Laure Bello publie dans Le Monde un article qui va faire date. Au cœur de cet article, des citoyens usagers du numérique qui avancent plus vite que les pouvoirs en place totalement débordés. Depuis, Laure Bello a creusé son enquête sur cette accélération du monde liée à Internet pour mettre en lumière le décalage entre la société et l'élite. Elle est notre invitée dans un instant avec le philosophe Éric Sadin qui lui s'intéresse aux risques d'une société hyper connectée. C'est le dossier dans un instant de notre tête au carré, avec vos messages, vos questions, vos témoignages, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. La marée du siècle, c'est à la une de la science aujourd'hui, Axel Villard, et elle est prévue pour samedi.
Une conjoncture unique astrale et météorologique pour des marées spectaculaires, visibles dès vendredi soir. On en parle dans un instant avec vos questions sur Twitter, hashtag l'attaque.
Et c'est Violaine Ballet qui réalise cette tête au carré, préparée par Anne-Cécile Perrin.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les citoyens, les élites, le pouvoir des systèmes numériques, c'est donc notre dossier dans un instant. Laure Bello, Éric Sadin, bonjour à
bonjour,
tous les deux.
Bonjour.
Laure Bello, la révolution numérique bat son plein, évidemment, avec un monde technologique qui s'est totalement emballé ces dernières années dans des proportions très importantes. La conséquence, entre autres, de ce phénomène de grande ampleur, c'est d'avoir totalement largué nos élites.
Non, c'est pas vraiment ça ce qui est en train de se passer. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les phénomènes émergents. Et en enquêtant sur des phénomènes émergents, je cherche à obtenir, à sentir le sens de ce qui est en train de se passer. Et comme j'ai la chance d'être dans un journal, Le Monde, qui a accès à des personnes qui ont accès à la connaissance, je me tourne vers eux pour essayer de comprendre ce qui se passe.
Alors, qu'est-ce qui se passe, justement?
Justement, sur Le Bon Coin, sur le big data, sur des phénomènes dans l'éducation. Et à chaque fois, la même chose, les gens que je côtoie et que je contacte, soit ne sont pas au courant, mais à la rigueur, pourquoi pas, ça va tellement vite. Mmh. Et ensuite, ne s'y intéresse pas. Et le cumul de ces expériences a fait sens. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce premier article, en me disant, mince, les élites sont débordées par le numérique, la société va vite.
Et on en parlera avec vous dans un instant. Éric Sadin, vous parlez du technopouvoir, entre autres, hein, dans votre ouvrage. Et vous localisez précisément aujourd'hui le pouvoir dans les laboratoires de recherche. Ce sont les ingénieurs qui ont le pouvoir aujourd'hui?
Je pense que les grandes industries de l'électronique et de l'Internet et du traitement des données, de plus en plus déterminent la trame de nos sociétés et infléchissent nos comportements individuels. Donc, elles sont dotées, ces entreprises, d'un pouvoir de plus en plus grandissant sur nos existences. Et à mon sens, il n'y a pas suffisamment de contre-pouvoir que nous leur opposons. Donc c'est un des enjeux que j'explore dans mon livre.
Et on va en parler, évidemment, avec vous. On va se retrouver dans quelques instants avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Et donc, à la une de la science aujourd'hui, la marée du siècle. Et c'est pour ce week-end.
Ça découvre beaucoup plus haut. Donc on a une surface beaucoup plus importante pour pouvoir chercher ce genre de coquillages, quoi.
C'est la palourde, hein, il n'y a pas autre chose. Hein. Au tronc des rochers, il y a 18, on monte tout.
Hein. La marée remonte, alors comme la marée remonte, le vent il a tourné, et là il faut rentrer là. Et puis d'une manière on a suffisamment gratté. Hein.
Et vous allez gratter ce week-end, c'est la marée du siècle, c'est bon pour la pêche à pied entre autres. Ces marées ont lieu tous les 18 ans, sont à la fois impressionnantes, même inquiétantes. Éric Langlois, bonjour.
Oui, bonjour Mathieu.
Vous êtes en studio avec nous, vous êtes ingénieur hydrographe au CHOM, c'est comme ça qu'on le prononce, l'Agence Nationale Experte en Hydro-Océanographie. Et puis au téléphone, depuis les Côtes d'Armor, nous sommes en ligne avec vous, Odile Guérin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe et auteur de nombreux ouvrages sur les marées. Alors justement, Odile Guérin, pourquoi ce week-end est-il si particulier sur le front des marées?
On a une marée tout à fait particulière, tout à fait exceptionnelle, ce qu'on appelle la marée d'équinoxe. Alors, il y en a tous les ans des marées d'équinoxe, mais cette année, elle est particulièrement belle, puisqu'on va atteindre un coefficient de 119, le maximum étant 120. Mm-hmm. Et ceci pour des raisons tout à fait, enfin, purement astronomiques. Alors, des grandes marées, ce qu'on appelle des vivos, on en a deux fois par mois, hein, à chaque nouvelle et chaque pleine lune. Mais ce qu'il y a de remarquable pour l'équinoxe, c'est qu'au moment de l'équinoxe, l'action du soleil est renforcée, parce que le soleil passe par le plan de l'équateur, et à ce moment-là, son action est un petit peu plus forte. Mmh. Et puis on a trois autres paramètres qui sont mobiles et qui vont se retrouver en 2015 à leur optimum. C'est la déclinaison de la Lune, c'est-à-dire la hauteur de la Lune, la déclinaison du soleil, donc là elle est donc à zéro, puisque le soleil passe par le plan de l'équateur, la distance Terre-Lune qui va être particulièrement faible cette année puisqu'on va être aux environs de 357 000 km.
Oui.
Le minimum étant 356 000 km, donc on en est vraiment, vraiment très proche.
Donc tous ces paramètres sont réunis en un ensemble qui fait qu'on aura ce phénomène plutôt rare.
Il se retrouve en ce moment, enfin, pour la marée qui vient, à leur optimum, ce qui se produit effectivement... tous les 18 ans pour des marées exceptionnelles et tous les 4 ans pour de belles villes aux eaux qui vont avoir un coefficient qui va dépasser le 115.
Bon, Éric Langlois, alors, faut parler de marée du siècle ou pas, ou c'est un petit effet d'annonce journalistique plaisant pour nous, mais qui, on le voit bien quand même, mérite quelques précisions. Hein.
Oui, non, tout à fait, c'est vraiment l'expression consacrée. Effectivement, comme l'a dit Odile Guérin, c'est un phénomène qu'on retrouve plutôt sur une période de 18 ans. Mais effectivement, le caractère tout à fait exceptionnel colle bien avec cette expression.
Alors, il faut s'attendre à quoi pour samedi ? D'abord, ça va démarrer quand exactement le processus ? C'est samedi matin, hein, c'est ça ?
Bah, écoutez, de toute façon, on va déjà avoir un coefficient de 118 le vendredi.
Mmh.
Donc le phénomène est déjà en place, c'est-à-dire la conjonction astronomique se fait déjà ressentir sur les flots. Mais effectivement, on va avoir ce 21 mars... un recul des eaux beaucoup plus important que la normale et pour cette période de l'année et une remontée des eaux beaucoup plus importante également. Donc pour le bonheur des pêcheurs à pied,
ça va être bien. Ouais.
Ça va être effectivement un moment à ne pas rater, mais le revers de la médaille, c'est aussi de prêter attention justement à cette remontée inhabituelle qui risque... où l'eau risque de s'engouffrer à des endroits où elle n'a pas trop l'habitude d'aller.
Alors, donc là, il y a des recommandations aussi, d'un point de vue de la sécurité, tout simplement. Il faut faire très attention à ce qui va se passer.
Il y a déjà, effectivement, la conjonction astronomique, mais le phénomène de marée, se traduisant par une onde, cette onde va avoir, on va dire, des effets particuliers en fonction des sites.
Mmh.
Donc, il faut surtout prêter grande attention aux prédictions de marée, aux horaires de marée qui sont adaptés pour chaque site du littoral français. Et puis, ensuite, veiller aussi à la conjonction de ces horaires de pleine mer, surtout de pleine mer, avec des phénomènes météorologiques, on va dire, extrêmes.
Ouais. Odile Guérin, justement, à quel endroit du littoral est-ce que les effets de cette marée seront les plus spectaculaires ? Où est-ce que vous nous conseillez d'aller absolument ?
Oh ben on a pas mal de spots en France. Bien sûr, la baie du Mont-Saint-Michel, on va avoir un marnage, il y aura une dénivellation entre la pleine mer et la basse mer qui va dépasser 14 mètres, hein, 14 mètres 25 à Cancale, par exemple. Vous avez aussi la baie de Somme, où là, on va dépasser 10 mètres. Et puis, je dirais un petit peu partout en Bretagne, et surtout en Bretagne Nord. Alors, les belles marées, évidemment, sont surtout en Manche, un peu moins en Atlantique, enfin dans le Dove du Gascogne. Et puis en Méditerranée, on aura aussi des grandes marées. Mais enfin, quand on n'a pas grand-chose, ça sera un peu plus que pas grand-chose, c'est-à-dire pas grand-chose quand même.
Bon, d'accord. Au moins, c'est clair. On va retenir cette phrase, elle est très très bonne. Axel.
Odile Guérin, il n'y a pas que les pêcheurs qui vont être contents. Les surfeurs aussi vont pouvoir s'aventurer sur les fleuves.
Ben oui, notamment pour ceux qui font du surf sur le Mascaret, notamment en Dordogne. Donc, je pense qu'ils vont être, là aujourd'hui et dans les jours qui viennent, hein, puisque la marée, les grandes marées, enfin, les coefficients de plus de 100, ça va quand même durer 5 ou 6 jours.
Oui, oui, je crois qu'ils se sont déjà donné rendez-vous, qu'il y aura beaucoup de monde, effectivement, également dans le sud-ouest, hein, pour participer à ce Mascaret. Éric Langlois, pour vous, c'est quoi l'endroit en Europe qui a le plus fort coefficient de marnage, justement, a priori ? Parce que tout le monde n'est pas d'accord sur cette question.
Alors, il y a deux choses. Il y a coefficient de marée et marnage. C'est vrai que le coefficient de marée, c'est un indicateur purement français, pour des raisons historiques, mais qui n'est pas utilisé par nos pays voisins, qui permet de traduire l'ampleur du phénomène. Le site le plus significatif, effectivement, ça reste la baie du Mont-Saint-Michel. Pourquoi ? Parce que la baie du Mont-Saint-Michel se trouve effectivement au fond d'un espèce d'entonnoir naturel entre les côtes nord-bretonnes et la côte ouest du Cotentin. Donc, et forcément, l'effet visuel est justement le fait d'observer le Mont-Saint-Michel l'espace de quelques heures, redevenir une île, être séparé du continent. Mais effectivement, il y a d'autres sites, tout ce qui est baie, estuaire, sont des sites aussi d'envergure où le phénomène est vraiment très impressionnant à observer.
Ouais. Odile Guérin, vous allez enfiler votre casquette de géologue justement, vous irez sur le terrain. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire exactement, vous, à l'occasion de cette marée du siècle ?
Ben moi, ce qui m'intéresse, c'est les extrêmes, c'est-à-dire voir où jusqu'où la mer va monter, puisqu'on a la chance d'avoir, d'après les prévisions météo, des conditions très calmes. Donc on va pouvoir mesurer exactement jusqu'où monte la mer. Mmh. Et puis, donc ça, c'est pour la pleine mer. Et puis, pour la basse mer, mais avoir des espaces qu'on ne voit pas très souvent. Et notamment, en tant que géologue, moi, c'est pour voir les roches.
Donc, c'est ce que vous ferez, évidemment, ce week-end.
Pour le week-end, oui.
Ouais. Éric Langlois, vous travaillez donc avec Météo France à la prévention due, justement, à ces grandes marées. Est-ce que l'élévation du niveau général des mers, c'est quelque chose qui peut préoccuper dans des cas comme ce week-end ?
Oui, tout à fait. Bah, souvenez-vous, la tempête Xynthia en 2010.
Il y avait un concours de circonstances aussi.
Effectivement, il y avait une conjonction entre le passage de cette tempête sur le littoral français et l'horaire de la période de pleine mer. Et je rappelle que pour l'épisode de Xynthia, on avait un coefficient de 102 contre 119 samedi.
Oui. Donc attention, vous surveillez toujours évidemment ces phénomènes.
Oui, on travaille en partenariat avec Météo France. On fournit en tout cas toutes nos données d'observation du niveau de la mer à Météo France pour que Météo France puisse justement établir la carte de vigilance qui va prévaloir et auquel justement chacun doit prêter une attention toute particulière.
Voilà, donc pour tous ceux qui iront se balader sur le littoral, renseignez-vous bien sur les horaires et commencez à remonter au maximum 30 minutes après que la mer ait atteint son point le plus bas. Il faut vraiment retenir ça pour pouvoir profiter de ce week-end.
C'est vrai que le phénomène que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'avant de s'élever, l'eau va déjà commencer à occuper l'espace, comme le fond d'une baignoire. Donc, et c'est plutôt ça qui a tendance à piéger. On parle souvent de la remontée des eaux qui va aussi vite qu'un cheval au galop au Mont-Saint-Michel. La réalité est plutôt celle d'un sprinter sur une piste d'athlétisme. Mais c'est vrai que sur un sol vaseux avec des bottes, on est loin de réaliser des performances dignes d'un athlète.
Merci Éric Langlois. Merci Odile Guérin. Et puis je rappelle également votre dernier ouvrage, Prendre les marées. C'est un livre que vous avez publié aux éditions Ouest France. Merci d'être passé à la Une de la Science aujourd'hui. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, à quoi servent nos cils ? Plusieurs hypothèses s'affrontent sur ce sujet. Une nouvelle piste très sérieuse vient d'être publiée par des chercheurs américains. Les cils seraient une barrière aérodynamique pour protéger nos yeux du dessèchement. Selon leurs observations, la taille des cils chez tous les mammifères vaut environ un tiers de la longueur de l'œil, un ratio optimal et constant pour créer une zone de stagnation de l'air autour de l'œil, réduisant jusqu'à 50% l'évaporation des larmes et le dépôt des particules. Les mystérieuses taches blanches à la surface de la planète naine Cérès seraient de gros monticules de glace active observés en détail par la sonde Cassini. Ces taches restent visibles lorsque la planète est observée de côté. Pour les scientifiques de la NASA, c'est la preuve que ces glaces forment un dôme de plusieurs dizaines de mètres de haut et qu'elles jaillissent régulièrement de la surface terreuse de la planète par un processus encore inconnu. Et puis pour terminer, voici la masse du boson de Higgs révélée hier. Il pèse 125,09 gigaélectronvolts, ce qui fait environ 10 milliards de fois moins qu'un gramme. C'est la mesure la plus précise à ce jour du boson de Higgs et l'une des mesures les plus précises jamais obtenues au LHC, qui va d'ailleurs redémarrer très prochainement. Allez, nous partons dans le monde numérique dans un instant.
Got to leave today. Just exactly where we're going, I cannot say, but we
Going Up to the Country avec Kenneth Hit sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Au cœur du monde numérique et de ses bouleversements, c'est donc notre tête au carré cet après-midi. Mes invités, la journaliste Laure Bellot, le philosophe Éric Sadin. Laure Bellot, vous êtes journaliste au Monde et donc vous publiez La déconnexion des élites, comment Internet dérange l'ordre établi. C'est aux éditions Les Arènes. Éric Sadin, vous êtes écrivain et philosophe et vous êtes l'auteur de La vie algorithmique, critique de la raison numérique aux éditions L'Échappée. Et les auditeurs nous rejoignent donc avec les claviers sur franceinter.fr et les messages courts sur le mot-clé l'attaque. Laure Bellot, je le disais tout à l'heure, c'était en décembre 2013, vous publiez cet article « Les élites débordées par le numérique » qui va faire pas mal de bruit à l'époque, beaucoup de bruit même, et qui va donner naissance donc à ce livre aujourd'hui. C'est l'objet de notre invitation. Qu'est-ce que vous avez touché de si sensible à l'époque pour que, à nouveau, d'ailleurs, le débat s'emballe ?
Oui, ce qui est intéressant, c'est que dans le sous-titre « Comment Internet dérange l'ordre établi », ça gêne l'ordre établi, mais ça le range déjà différemment. C'est-à-dire qu'il y a des anciennes élites qui ont du mal peut-être à saisir ce qui se passe, il y a des nouvelles élites qui se saisissent déjà parfaitement de cette technologie, qui prennent des positions extrêmement fortes. Nous assistons à une accélération du monde bien supérieure au temps de construction de la société, au temps de construction du droit. Et c'est de cela dont je voulais parler. Ce qui était très intéressant depuis la publication de ce livre, c'est que ce qui s'est passé pour l'article est en train de se passer pour le livre également.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réactions.
Oui, et surtout que, comme je suis partie d'enquête, donc c'est extrêmement factuel, 9 chapitres, 9 enquêtes, à chaque fois des secteurs, de la consommation, de l'éducation, de la finance, de la politique. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque chapitre, les gens qui sont concernés, certaines personnes qui sont concernées, s'en saisissent et en parlent autour d'eux en disant voilà ce qui est en train de se passer, voilà les questions que l'on doit se poser. Donc ce qui est intéressant et que je trouve plutôt percutant en fait dans cette société actuelle, c'est de se dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont conscientes que des choses bougent, que des choses bougent très vite, que peut-être que la société ne réagit pas de façon si assez percutante et pertinente par rapport à ce qui est en train d'arriver, et qu'il est nécessaire également de prendre position d'un point de vue politique, d'un point de vue du droit, pour que les choses ne s'emballent pas et pour que nous prenions le temps de réfléchir à ce qui se passe.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu un rouleau compresseur qui nous est arrivé dessus avec une vitesse vertigineuse justement liée à ces nouveaux usages, et donc les élites aujourd'hui ont pris conscience qu'il fallait réagir ou...
C'est compliqué de dire les élites parce que c'est quelque chose de globalisant. Qu'est-ce que veut dire les élites? Ce que j'ai découvert en effet, et c'est intéressant parce que je crois qu'Éric Sadin en parle aussi, des signaux faibles. Ce que j'ai vu moi comme clivage, on peut se dire c'est à les personnes entre guillemets, qui d'un certain âge, qui sont nés avant la vague, mais moi je suis né aussi avant la vague, ouais. Et puis les personnes qui sont nées dedans, et puis maintenant les jeunes qui sont nés aussi avec le smartphone. Mais ce qui est intéressant dans le clivage, c'est que j'ai vu qu'il y a des gens qui s'intéressent aux signaux faibles, ce qui est en train d'arriver, et qui se posent des questions sur ce que ça veut dire, et puis les autres. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus pertinent, en effet, de pouvoir essayer de comprendre ce qui est en train de se passer pour se poser ensuite les bonnes questions sociétales et puis philosophiques.
Éric Sadin, on parle souvent de révolution numérique. Qu'est-ce que vous pensez de cette notion d'abord ?
Bon, alors dans mon précédent livre, L'humanité augmentée, j'avais déjà dit qu'on était sorti de la révolution numérique, mais je ne vais pas expliciter pourquoi, bien que je pense que nous sortons en tout cas actuellement de l'utopie qui a imprimé la généralisation de l'Internet au cours des années 90, hein, qui était emblématique dans la notion d'âge de l'accès, c'est-à-dire les individus, d'un coup, au cours de cette décennie-là, ont eu accès à une infinité de corpus textuels, sonores, vidéos, iconiques, et ça a donné le sentiment comme ça d'une sorte de nouvel âge dans l'histoire de l'humanité, et qui a été accompagné par quantité de discours utopiques venant principalement de Californie et de la Silicon Valley. Or, aujourd'hui, il me semble que l'âge de l'accès ne s'atténue pas, au contraire, il ne fait que s'amplifier. Mais nous sommes aujourd'hui dans l'âge de la capture d'informations de tout ordre, c'est-à-dire l'âge des capteurs, l'âge des objets connectés. Mmh. Et ce sont les sociétés tout entières, dans leur ensemble, qui témoignent de leurs états, les individus de leurs comportements, et cela créer des flopées, des myriades de masses informationnelles.
Voilà, avec une production de données.
De données, ce qu'on nomme les big data. Et cela, ouais. ce que j'analyse dans mon livre, d'un point de vue critique, c'est pour ça que j'ai intitulé le sous-titre critique de la raison numérique, c'est que cette connaissance des choses de plus en plus précises et en temps réel des phénomènes a tendance actuellement à être transformée systématiquement
investissement, en services monétisables, et donc entraîne une marchandisation de la vie. Et donc je signale ce phénomène avec un soupçon d'inquiétude et une nécessaire dimension critique.
Ouais. Laure Bello, la marchandisation du Bon Coin, par exemple, oui. d'Airbnb, enfin tout ça, c'est vraiment du commerce organisé par les citoyens, mais commerce quand même.
Hein. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est cette masse de données sur les gens qui est en train d'augmenter encore plus avec l'arrivée de ces objets connectés ou de ces objets qui suivent notre quotidien. Mm-hmm. Et on voit que pour l'instant, il y a trois grandes orientations d'utilisation des données. Il y a en effet la monétisation commerciale, parce que tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on est en train de faire, nous définit un peu plus et on va nous matraquer de messages publicitaires parce qu'on sait qu'on va aimer tel endroit, telle chose à tel moment. Donc c'est l'analyse du ticket de caisse, mais exponentielle, ça c'est le premier point. Il y a l'utilisation des big data pour ce qui est de la sécurité sécuritaire, et ça les gouvernements l'ont très bien compris, donc il n'y a pas une déconnexion du tout des élites concernant l'utilisation du big data pour la sécurité. Et puis il y a un troisième point qui est extrêmement intéressant, c'est le big data pour comprendre mieux nos sociétés, pour que nous vivons mieux dans cette société. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai été, là par exemple, contacté par un hackathon qui devait travailler justement sur l'utilisation du big data pour des applications. Et on voit bien que toutes ces sociétés connectées ont des données, elles ne savent pas vraiment quoi en faire. Mmh. Et surtout, la question derrière, c'est qui paye pour cela ? C'est qu'en fait, les données actuellement sont possédées par des grands groupes privés. Et les personnes qui analysent le mieux la société sont des personnes qui sont plutôt dans des institutions publiques. Sauf qu'aussi, actuellement, il y a une aspiration très très forte des chercheurs vers des centres privés. Et donc, derrière ça, c'est comment on va faire pour que ces données privées, soit la société puisse s'en saisir pour améliorer notre vie.
Oui, mais la société aussi livre ces données, Éric Sadin, puisqu'on est complice aussi. Hein.
Alors, nous sommes totalement complices, et notamment quand on voit que Apple Watch a été présenté il y a une dizaine de jours, hein, et l'enthousiasme relativement aux bracelets, aux montres connectées, qui mesurent, qui quantifient nos flux physiologiques, hein, qui sont saisis par des applications dédiées, hein, et qui nous suggèrent, c'est toujours la même histoire, compréhension en temps réel des phénomènes et suggestions en retour de services monétisés. Vous savez, la semaine dernière, j'étais invité au salon Big Data à Paris à donner une conférence au CNIT à la Défense. Alors j'ai entendu beaucoup d'ingénieurs qui en général étaient pris par un discours qui voulait œuvrer au bien-être de l'humanité sans même nous demander notre avis. Mm-hmm. Et il y a un modèle majoritaire et dominant aujourd'hui, c'est la saisie tous azimuts, c'est-à-dire collée à toute l'existence, c'est-à-dire du sommeil. On peut presque décrire la journée d'une personne.
Alors, on va entendre un extrait tout à l'heure parce qu'on a fait un petit montage.
Bon, mais ça pourrait presque être une petite... Voilà, une journée, je me lève, ma balance est connectée, on propose
tout est
mon
analysé
café,
et on adapte en fonction.
Je sors dans la Smart City. Bon, bref. Donc, l'idée, le grand modèle dominant, c'est de comprendre les comportements individuels et collectifs et d'offrir des services. Il s'opère une forme de servicisation de l'existence. Et ça me semble, et c'est l'objet de notre conversation aujourd'hui, sans que le pouvoir politique et les citoyens, le pouvoir politique n'oppose des contre-pouvoirs nécessaires. Et les citoyens ne comprennent la nature de ce qui s'opère actuellement au-delà de la dimension ludique et séduisante des applications et des interfaces.
Alors, pour illustrer ce que vous nous racontez, Éric Sadin, la journée type, justement, dans une maison connectée, c'est une petite fiction, au fond, imaginée dans votre livre et mise en voix avec Anne-Cécile Perrin.
Vous dormez paisiblement au cœur de la nuit. Dans le froid de l'hiver, le système de chauffage autosuffisant de votre chambre se module en fonction des conditions climatiques extérieures et de votre présence, détecté par un capteur ad hoc. La température ambiante s'élève à 12 degrés. C'est votre couette intelligente qui s'assure ici du relais de votre confort thermique. Votre machine à laver entame un cycle de lavage en mode silencieux, activé par le système régional de gestion automatisée des stocks d'énergie, profitant d'une micro-réserve disponible qui vous sera facturée à un prix plancher puisque corrélée aux circonstances favorables. Vu la qualité générale de votre sommeil, évaluée multicritère, plus la densité de vos activités à venir, votre assistant numérique décide de vous réveiller plus tôt qu'initialement envisagé, soit maintenant à 5h57. Aujourd'hui, la modalité de réveil choisie correspond à la diffusion à volume feutré de la matinale de la station de radio qui aura décidé de couvrir le plus largement une nouvelle qui vous intéresse particulièrement.
la chute brutale du cours du blé à la bourse.
Voilà, c'est quasiment la vie rêvée dans la maison connectée. Du matin au soir, on ne peut pas bouger le petit doigt sans être analysé, sans avoir des propositions. Et donc, ce sont des données aussi, hein, parce qu'on réagit à des données, évidemment.
C'est une jolie surprise que vous m'avez fait de mettre en voix ce texte.
Ce sont les premières pages
qui ouvre mon livre.
De votre livre. L'Orbello. Parce que c'est vrai que le Big Data, c'est au centre de toutes ces questions autour du numérique, hein, quand même, aujourd'hui.
Mais oui, ce qui est au centre, c'est qu'on mesure notre vie, on a de plus en plus d'informations et que pour l'instant, plus de 80% de ces données sont absorbées par les États-Unis, une autre partie, c'est la Chine. Ça, c'est détenu par des groupes privés. Et on voit bien aussi que pour l'instant, comme il y a assez peu de cadres, ou très peu de cadres, il y a des cadres qui sont des cadres que les entreprises privées se sont elles-mêmes fixées. Autant dire que pour l'instant, on a bien vu ça pour le travail des enfants.
Donc, problème de
législation très clair. C'est comment faire pour contrecarrer ça. Et ce qui est intéressant, en interviewant, moi j'ai interviewé une centaine de personnes dans le livre, c'est qu'au bout du compte, on voit bien qu'il y a des tentatives en Australie, il y a des législatives, il y a des tentatives aussi aux États-Unis avec des études qui sont gouvernementales, mais que derrière ça, des personnes comme la présidente de la CNIL nous dit, il faut aussi que la foule, armer la foule pour que la foule aussi prenne...
S'en empare et
fasse une sorte de contre-pouvoir. Parce que ce qui est quand même très très intéressant, c'est que ces groupes privés ne fonctionnent aussi que parce qu'ils ont des clients. Des clients, c'est-à-dire des usagers. C'est-à-dire que si, à un moment donné, on se rend compte que l'usager, ça va trop loin, l'usager peut après se dire, je me détourne de ce sujet. Alors, par exemple, je m'arrête juste sur le point de Facebook qui a fait toute une manipulation géante, qui était la manipulation des sentiments, où pendant une semaine, ils ont bombardé des choses très positives sur la moitié de leur échantillon de 300 000 personnes. Et 300 000 personnes, ils ont bombardé des choses extrêmement négatives. Heureusement, il n'y a pas eu de problème. Imaginons qu'il y ait eu un problème. Vous vous rendez compte, quelqu'un de fragilisé qui reçoit pendant toute une semaine des informations extrêmement négatives, que peut-il se passer ?
Allez, on y revient dans un instant. Et puis cette question du contre-pouvoir qui vous intéresse au plus haut point, Éric Sadin, c'est le dossier Ensemble de la tête au carré. Les messages arrivent, je vous les transmets. Franceinter.fr.
Colonel chagrin, colonel de plomb, pleure des canadaires et des cotillons. Pour une fille partie, colonel de pluie, s'ennuie. Pleure donc pas comme ça, colonel bidon. Si t'es un garçon, si t'es un garçon. Les filles, c'est des connes, colonel marron. Et toi, t'es qu'un con. Colonel vaut rien, caporal miné. Joue les astronautes et dans les nuées. Tu cherches rien d'autre, tu cherches rien d'autre que ta bien-aimée. Comme ça, colonel mouillé, à regarder le ciel, à penser qu'à elle, c'est fini les balles, les Negresco, colonel. Thank you. cherches rien d'autre, tu cherches rien d'autre que ta bien.
Colonel Chagrin, et c'est la voix de Camélia Jordana sur France Inter. Laure Bello, journaliste au Monde avec la déconnexion des élites aux éditions Les Arènes. Éric Sadin, écrivain et philosophe avec la vie algorithmique aux éditions L'Échappée. Et vos messages sur franceinter.fr. De quelles élites on parle, Laure Bello, justement ?
Justement,
on trouvait le terme un peu vague, c'est vrai, tout à l'heure, il faut peut-être préciser les choses.
Oui, c'est que la déconnexion des élites, ce n'est pas seulement des élites vieillissantes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est que...
Ce sont même les élites 3.0 alors ?
Il y a également des élites 3.0, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles élites qui comprennent parfaitement ce qui est en train de se passer et qui prennent des positions, parce qu'ils comprennent plus vite que les autres ce qui est en train de se passer. Et donc moi, vous parlez des ingénieurs dans votre livre, moi je parle des King Coders. Les King Coders, c'est 150 000 à 200 000 personnes dans le monde qui sont achetées des centaines de millions par Facebook, Google, etc. quand ils font des acquisitions. Pourquoi ? Parce que ces personnes ont des capacités d'abstraction incroyables à des âges très jeunes, 15, 16, 17 ans, 18 ans, et ces personnes-là sont capables de potentialiser entre guillemets des produits pour générer encore plus de profits. Donc ces nouvelles élites-là, qui gagnent énormément d'argent, sont également des nouveaux maîtres du monde. Ce sont des gens un club très fermé d'informaticiens codeurs. Oui. Et quand on regarde les 25 premières fortunes mondiales, 8 personnes dans les 25 sont des anciens codeurs.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Éric Sadin, avec le pouvoir aujourd'hui qui se trouve clairement dans les laboratoires de recherche et aux mains des ingénieurs.
Oui, c'est-à-dire que les grands mouvements de transformation du monde et leurs ressorts puissants viennent en grande partie des ingénieurs, en très grande partie de la Silicon Valley, mais plus aujourd'hui, plus seulement aujourd'hui. Et ce qu'il faut relever, c'est qu'ils sont quand même pris d'un imaginaire aujourd'hui, ce qui caractérise les ingénieurs relativement à... C'est un esprit différent de ce qui pouvait prévaloir il y a une trentaine ou quarantaine d'années. C'est l'idée que... C'est un nouveau Far West, c'est-à-dire tout est possible. Et moi, je remarque, je suis allé dans pas mal de laboratoires de recherche, j'ai rien contre les ingénieurs personnellement, mais je remarque que les conséquences, c'est une vieille histoire, que les conséquences sociétales et civilisationnelles...
Ne sont pas réfléchies du tout.
Par exemple, je pense au phénomène extrêmement intéressant qui s'est passé il y a quelques mois, c'est-à-dire l'abandon supposé, mais je pense que c'est loin des définitifs, des Google Glass. J'en parle dans mon livre, qu'est-ce qui s'est passé avec cela ? Le sentiment par les usagers, par les populations, que probablement, consciemment et inconsciemment d'ailleurs, on entendait pas mal de discours et d'inquiétudes, que là il y avait quelque chose un peu de trop, un seuil. Par exemple, je ne vous connais pas, je vous rencontre dans la rue, Mathieu, sur mes lunettes, j'ai quantité d'informations.
C'est intéressant d'ailleurs cet exemple. Voilà. Sur le recul de Google sur un tel objet important qui a fait beaucoup mousser même qui n'arrive dans le commerce.
Et qu'est-ce qui a déterminé le projet de Google ? C'est simplement une seule chose, le fait que c'est possible. C'est possible technologiquement, ça a été une longue histoire dans la réalisation de ce dispositif, de ce prototype qui après a été mis sur le marché avec des difficultés, nous le savons. Mais qu'est-ce qui a rendu possible cela ? Le fait que il y a ce rêve et la technologie qui est possible et les conséquences même sur le paradigme social, c'est-à-dire d'avoir quantité d'informations relativement aux individus, sans même leur assentiment, parce que ça va plus vite, ces objets vont plus vite que la capacité du politico-juridique à ériger des règles en conséquence, et bien ça, c'est l'esprit des ingénieurs actuellement.
Il y avait des réactions très agressives dans la rue, d'ailleurs,
très
à San Francisco,
face
aux personnes qui portaient ces lunettes.
Et ça me l'a fait plaisir, parce qu'il y avait quelque chose qui était pertinent, là, c'est-à-dire de sentir...
Il y avait une réaction, en tout cas.
Il y avait le sentiment qu'il y avait des seuils, et ces seuils-là, la conscience des sociétés, peuvent manifester parfois de l'opposition, voire de l'inquiétude.
Laure Bello.
Oui, puis c'est intéressant aussi de voir que quand on a une technologie en main, on est grisé. Dans les laboratoires, les scientifiques sont grisés. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est que confrontés à la réalité, à l'arrêté du marché, c'est vrai que dans les Google Glass, qui étaient j'en ai essayé, honnêtement, c'était compliqué à porter. Moi, j'avais vraiment beaucoup de mal à m'y faire. Et autrement, ce qui est intéressant, c'est que dans les entreprises même de la Silicon Valley, elles ont été interdites parce qu'ils se sont bien rendus compte que c'était des espions potentiels et que tout pouvait être capté. Donc, le contre-pouvoir, là, était rapide, réel et protéiforme. Donc, c'est ça qui vient aussi.
Un objet que les hommes politiques adorent, c'est Twitter, reportage de France 2 en janvier dans les couloirs de l'Assemblée nationale.
Vous faites partie, vous, de ces députés qui tweetent beaucoup ?
Oui.
Moi, je me sers beaucoup de Twitter, probablement beaucoup trop.
Je pratique Twitter.
Ouais. On m'a dit que c'était bien de tweeter.
Je tweete actif ?
Moi, je tweete, oui. Je tweete.
C'est bien, c'est utile ?
Oui.
Utile et même indispensable pour donner une opinion, une information ou pour pousser un coup de colère. Christiane Taubira avait tweeté en anglais pour s'indigner de la justice américaine relaxant des policiers qui avaient abattu de jeunes noirs. Jean-Luc Mélenchon l'a fait en allemand pour dire « Fermez-la, Angela Merkel, la France est libre, ni l'un ni l'autre n'ont eu besoin d'un micro ».
Le tweet correspond à un fantasme d'homme politique. On s'adresse directement aux gens. Et ça, pour un homme politique, c'est formidable. C'est l'ivresse en tout petit du meeting. Vous n'avez plus de filtre. Donc, accessoirement, c'est aussi une forme de bras d'honneur au journalisme dont ils savent qu'il est indispensable dans une société, mais qui est quelquefois un peu embêtant.
Twitter s'est imposé. La question n'est d'ailleurs plus de savoir si l'on possède un compte, mais plutôt combien d'abonnés, pardon, de followers le suivent.
Je crois que j'ai 8000 followers aujourd'hui.
13000 personnes qui suivent, c'est pas non plus énorme.
J'en ai dans les 5700, quelque chose comme ça.
Et puis il y a les hors-concours.
Vous avez beaucoup de gens qui vous suivent ?
Ouais, je vais vous montrer ça.
357 657.
C'était Nathalie Kosciusko-Morizet qui battait tous les records de followers. Vous voyez qu'ils sont connectés, nos élites politiques, leur mélo. Ils sont tout le temps sur Twitter en train de nous envoyer des messages personnels.
Tout à fait, tout à fait. Mais là, il y a un chapitre qui parle de ça dans le livre, justement. Ouais. Parce que la lecture des politiques, pour l'instant, par rapport à Internet, ça a été d'une part la communication, de haut en bas, sur Facebook, sur Twitter, et puis le côté de la sécurité, en fait. Et il y a quelque chose d'autre qui aussi se passe dans la société, qu'on arrive assez mal à percevoir.
Par exemple, alors pensez à quoi ?
Justement, je pense à un article que j'ai écrit hier soir, avec, c'est un incroyable concours de circonstances. Le 26 février, c'est barbarie au musée de Mossoul, la destruction d'œuvres incroyables. Deux scientifiques, un qui est en Espagne, l'autre qui est à Stuttgart, regardent ça, ils sont dans un collectif de 19 scientifiques qui sont connectés, qui parlent de patrimoine et travaillent sur le patrimoine, ils se disent qu'il faut faire quelque chose. De Chypre, le responsable de ce collectif d'archéologues dit « Allez-y, on héberge un site ». Ils vont contacter l'UNESCO et de grandes institutions mondiales en disant « Est-ce que vous acceptez qu'on fasse un site pour créer un musée virtuel en 3D ? Mais nous avons besoin de trois choses. Nous avons besoin d'images, d'images donc des œuvres d'art qui ont été récupérées avant 2003. Nous avons besoin de personnes qui nous aident à les trier, donc de connaissances. Et troisièmement, nous avons besoin de codeurs, donc d'informaticiens qui nous aident à les mettre en trois dimensions.
Donc ce qui vous intéresse, c'est quoi ? L'initiative au fond ?
C'est l'initiative.
En dehors des arcanes habituelles ?
C'est ça, l'initiative, la rapidité, le fait que la communauté mondiale des internautes a répondu et qu'ensuite le musée a pris forme depuis une semaine. J'ai été contacté, moi, par quelqu'un qui a été séduit par ça, qui a envoyé ça au monde entier.
Et là aussi une vitesse vertigineuse, c'est-à-dire qu'il y a un temps de réaction qui est très court.
Mais ce qui est intéressant, c'est que l'article est sorti donc hier soir et ce matin, les deux scientifiques m'envoient un mail en disant, écoutez, c'est formidable, nous avons été aussi contactés par des gens de Mossoul, indirectement. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi mondialement quelque chose qui se passe, qu'on a du mal à appréhender, mais qui change notre rapport au monde et notre rapport aux autres.
Éric Sada.
Oui, qu'il y ait des phénomènes, il ne faut pas être binaire, loin de là, hein, qu'il y ait des phénomènes vertueux, notamment dans le champ de la recherche. D'ailleurs, si on parle de champ de la recherche, immédiatement, on doit entendre que nous sommes à l'écart du modèle de la marchandisation, hein, dès qu'on est, par exemple, dans le champ de la recherche. Donc, qu'il y ait des modèles vertueux, des initiatives intéressantes de la part de citoyens, personne n'en doute, cela. En tous les cas, moi, je ne mets pas cela en cause. Ce qui m'intéresse, ce sont le modèle majoritaire et structurant qui détermine la forme de nos sociétés. Comme nous l'avons dit, c'est-à-dire d'une connaissance avec les big data, la capacité des systèmes à interpréter les situations en temps réel et à suggérer, à réguler, à optimiser, à fluidifier le cours de nos sociétés, à quantifier nos comportements, nos existences et à offrir en retour quantité de services, à transformer la vie en service et en marchandisation de l'existence. Cela, c'est un modèle où moi, je ne crois pas du tout à la déconnexion des élites politiques. Si on parle des élites politiques ou du personnel politique, je crois au contraire qu'il s'opère un phénomène de collusion. Hein,
vous parlez d'un rapport de force permanent, au fond, entre le politique et la technique. Un rapport qui a toujours existé, au fond, depuis l'ère industrielle.
Mais qui s'est affaibli par l'économie de l'Internet et du traitement des données, à telle enseigne, je renvoie par exemple à Axel Lemaire, j'ai rien contre elle personnellement, je trouve surexcité relativement à ses projets de French Tech, c'est-à-dire de vouloir engager des fonds publics, de supposer que, au nom de l'emploi, au nom de l'horizon économique, de soutenir des start-up dont le modèle, je le dis, mais vraiment je pèse mes mots là, ce sont des modèles de rapaces, à vouloir coller à tous les moments d'existence, mon sommeil, on va me proposer des compléments alimentaires en fonction de mon alimentation, on va me proposer tel type d'alimentation parce que je suis un peu déviant. Ce modèle-là, qu'il soit soutenu par le pouvoir politique, parce que là, il n'y a pas retrait, il y a collusion, hein, notamment par des fonds publics, là, je pense que la nature même de l'innovation contemporaine, elle n'est pas suffisamment pesée pensée et elle est occultée au nom du sempiternel emploi, de l'horizon économique et de l'emploi.
Allez, réaction de Laure Bello avant de passer
à
la dernière
là,
partie.
Là, pour le coup, nous avons un vrai désaccord.
C'est vrai.
Réellement, parce que je pense sincèrement qu'il se passe quelque chose de profond sociétalement, qu'il y a des choses, en effet, des nouveaux enjeux de pouvoir, des nouvelles élites qui prennent position, mais il y a aussi des choses extrêmement intéressantes, sociétales, profonde. Je suis, moi j'utilise des sites collaboratifs, j'utilise Le Bon Coin, j'utilise Airbnb, je loue entre particuliers sur Drivee et Wicar. Ceci ne veut pas dire pour autant que je ne sais pas que je passe par des plateformes et que ces plateformes ont aussi des modèles qui sont des modèles capitalistiques, on le sait. Mais malgré tout, ce qui est en train de se passer au niveau de la société est quelque chose de central. Et il est vrai aussi qu'une grande partie des start-up qui sont en gestation en France ne sont pas des rapaces. Je suis désolée, ce sont des personnes qui ont des idées, qui ont des outils et qui essayent de faire avancer ces idées pour faire bouger la société.
Donc, enfin, bouger, c'est ce que vous appelez bouger, c'est transformer toute la vie en service. Moi, je n'appelle pas ça à bouger. Ce n'est pas un mouvement vertueux, à mon sens. C'est comme ce que vous parlez d'Airbnb et de Uber. L'état de la technologie contemporaine est recouvert de technodiscours, de discours. C'est comme le terme d'économie du partage, qui selon moi relève d'un enjolivement rhétorique. Ce ne sont juste des grandes plateformes tendanciellement monopolistiques et qui organisent des échanges marchands entre les individus. C'est ça le modèle. Moi, je n'ai rien contre le commerce, mais il faut décomposer les choses, dire ce qu'il se passe et non pas recouvrir cela par quantité de discours.
C'est exactement ce que je dis dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux modèles qui sont en train de se mettre en place, mais il n'empêche, sociétalement, le numérique est en train de bouleverser les liens entre individus.
Allez, on parlera de contre-pouvoir avec vous et de cadre législatif également dans la dernière partie de l'émission.
Tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry. Yeah, yeah. As I look around me, so many wanna down me, but enemy gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me, and I love myself.
The world is a ghetto, big guns and dick inside.
I love myself,
but they can do what they want when they play war. I don't mind.
I love myself.
What you gon' do? Lift up your head and keep moving. Or let the paranoia haunt you. Peace to fashion police, I wear my heart on my sleeve, let the runway start. You know the miserable, do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confident, everybody lack confident. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this,
I love myself.
The world is a ghetto, big guns and dick inside.
I love myself.
But they can do what they want whenever they want. Police and a rock on a corner and a line full of fiend and a bottle full of lean and a motto on a scheme, yeah. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, feed 5-4 for basis. Dreams are reality's peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile.
I love myself.
The world is a ghetto, big guns and dick
inside. I love myself.
But they can do what they want whenever they want. I don't mind.
I love myself.
Kendrick Lamar, à l'instant sur France Inter. Allez, dernière partie de notre discussion avec la journaliste du Monde, Laure Bello, et ce livre, La déconnexion des élites aux arènes, Éric Sadin, avec La vie algorithmique, critique de la raison numérique aux éditions L'Échappée. Sont les maths maintenant qui gouvernent le monde, Éric Sadin ?
En grande partie, les algorithmes qui nous suggèrent, mais qui ne font plus que nous suggérer, vous savez, comme le modèle d'Amazon, on achète tel livre, on nous suggère tel livre. Oui. Ça, j'ai presque envie de dire, c'est déjà presque un modèle ancien. Rendez-vous compte que 4-5 ans, un modèle ancien, c'est déjà, on dit que c'est ancien, 4-5 ans, c'est pour parler de la vitesse. Hein. Je pense que le modèle aujourd'hui, c'est celui de l'accompagnement du cours de l'existence. Par exemple, dans l'assurance, il y a cette formule qui est énoncée par les compagnies depuis très peu de temps, qui est très troublante quand même, c'est P as you drive. Alors, on est sur France Inter, on va parler en français. Hein. Payer selon la façon dont vous conduisez. Vous rendez-vous compte ce que ça veut dire, cela ? Ça veut dire une connaissance continue des modalités de conduite et la modulation des tarifs en fonction de la personnalité, des usages, des pratiques de chacun. C'est ce modèle. Alors, de société majoritaire vers lequel nous avons. Et je le répète, hein, qu'il y ait des choses à la marge vertueuses et bienveillantes, je n'en doute pas. Mais ce modèle-là de l'esprit de pay as you drive est un phénomène majeur à venir dans nos sociétés.
Larry nous dit ceci sur franceinter.fr. Laure Bello, le sujet du jour pourrait-il se résumer à dire que le numérique serait génial car horizontal et la politique mauvaise parce que verticale ?
Eh ben non, ce serait trop simple de dire ça. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant d'un point de vue politique, c'est de voir qu'on voit que les jeunes, une désaffection des jeunes pour les partis politiques, mais qu'il y a énormément d'expressions politiques en ligne. Et on voit que les jeunes sont très intéressés par la politique, par la société, par des projets sociaux, et qu'ils s'expriment, et qu'ils font des pétitions.
Alors vous montrez un dynamisme français étonnant quand même. Hein.
Il y a un dynamisme français étonnant. Et ça, c'est extraordinaire. Alors qu'on se dit qu'on est pessimiste, vous voyez, par exemple, Le Bon Coin...
Et qu'on se flagelle en permanence.
Hein. Exactement. Le Bon Coin, c'est quand même la plateforme, ça appartient à un groupe qui s'appelle Schibsted, qui est présent dans plus de 20 pays dans le monde. Et bien, Le Bon Coin, c'est une plateforme que les Français ont embrassée dans leur totalité. Il y a 35 millions de personnes en France, sur les 42 millions qui sont sur Internet, qui sont en soi achetées ou vendu sur Le Bon Coin.
Et ça, vous dites justement, le problème des élites, c'est qu'ils ignorent ce phénomène d'ampleur.
Ben, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai essayé de leur parler, à ce moment-là, il y avait 17 millions de personnes qui étaient en ligne par mois, et que j'ai appelé, on va dire, une bonne quinzaine de personnes qui sont des personnes reconnues et qui étudient la société. Ces personnes avaient donc deux réactions. Soit ils étaient un peu vexés, parce que c'est vrai que Le Bon Coin, c'est pas quelque chose d'extrêmement flatteur. Soit ils ne s'y intéressaient pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que ce Bon Coin, c'est une illustration quand même du fait que les citoyens s'emparent de cette plateforme pour faire plein de choses différentes. Ils ont vu, par exemple, et ce qui est intéressant aussi, c'est que les gestionnaires du Bon Coin voient qu'il y a une paire de chaussures qui arrive sur Le Bon Coin, ils mettent un onglet chaussures, il y a 500 000 paires de chaussures qui arrivent.
Éric Sadin, il verra, lui, la marchandisation
Moi, je n'ai rien contre la marchandisation. Ce qui me gêne, c'est le mouvement tendanciellement intégral de tous les moments de la vie. Nous allons vers cela, hein, ne nous trompons pas. C'est-à-dire, je marche dans la rue, on me signale tel boutique en rapport avec ma géolocalisation, je tousse le capteur intégré à mon smartphone. Donc, puisque les technologies... je pense que ce qui est important à formuler, et ce que je signale dans mon livre, le titre, hein, Critique de la raison numérique, c'est que les technologies numériques ne sont plus des gadgets, ne doivent plus être comprises comme des gadgets. Ce sont des instruments qui déterminent la forme de notre vie. Donc nous devons instaurer un rapport politique, c'est-à-dire de nous réapproprier les choses, tant d'un point de vue du législateur, du personnel politique que du citoyen.
Donc, ce sont des instruments politiques. Donc face à phénomène de grande ampleur, Laure Bello ?
Non, absolument pas. Je crois que ça ne s'oppose absolument pas, parce que ce qui est intéressant derrière ça, de savoir quels vont être les contre-pouvoirs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'à chaque fois qu'il y a des services qui vont trop loin, on peut imaginer que les citoyens vont se détourner de ces services. Donc, lorsque Isabelle Falque-Perrotin, moi, dans mon livre, dit « Il faut inciter les citoyens à reprendre le pouvoir
», elle a totalement raison. C'est ce qui s'est passé avec Google Glass, hein, au fond. C'est ce qu'on dit aussi un petit peu. Il y a quand même une réaction de contre-pouvoir aussi.
Ça s'est passé pour ça, mais ça s'est passé exactement, par exemple, pour la neutralité du net. La neutralité du net, il y avait un lobbying extraordinaire des grands groupes télécoms aux États-Unis, il y a eu 4 millions de personnes qui ont envoyé des mails au gouvernement en disant « il faut prendre position ». C'est ça qui est quand même extrêmement intéressant aussi, c'est que les personnes maintenant ont les moyens, sans beaucoup de moyens financiers, de s'exprimer et de faire valoir leur position.
Éric Sadin ?
Quand je parle de politisation de nos rapports à la technique, aux technologies numériques, je pense à trois choses, hein, pour dire très rapidement les choses, très rapidement. C'est que nous savons très bien que les développements de la technique vont beaucoup plus loin que la capacité capacité du politico ou du législateur à réagir. L'idée, c'est pas de légiférer sur chacune des nouveautés, hein, des innovations, c'est de bien affirmer des exigences fondamentales, le respect de l'intégrité de la personne, le bien commun, le libre consentement des individus. Mmh. Et ce travail politico-législatif n'a pas été suffisamment développé ces 15 dernières années. Et puis j'insiste sur une dernière chose, hein, si vous me le permettez, Mathieu, c'est le fait que la politisation, ça passe aussi par un rapport davantage conscient de maîtrise des techniques par les individus. Hein. Il est beaucoup question de l'apprentissage du code à l'école, hein. C'est-à-dire de rendre possible aux individus des capacités d'appropriation et de développer d'autres modèles. Mmh. Ce à quoi j'en appelle, moi, c'est de développer d'autres modèles et de mettre en crise le modèle marchand dominant actuellement, si prégnant dans nos sociétés.
Alors, il y a un message de Mathéo. Je suis effaré de constater la méconnaissance totale d'Internet et des nouvelles technologies par les élites. Je roule ma bosse dans le web depuis 96. À tout casser autour de moi, je dois connaître 3 personnes seulement qui comprennent les enjeux derrière l'Internet d'aujourd'hui et des objets connectés. La formation, l'éducation, l'ouverture aux nouvelles technologies est pour moi la seule clé pour ne pas se laisser submerger demain par des choses que l'on ne comprend pas aujourd'hui.
Oui, ça me paraît central, cette réaction d'auditeur, parce qu'en effet, ça commence déjà par la formation. Et ce qui est très intéressant depuis un an, c'est que dans certaines universités américaines, des cours d'éthique informatique sont arrivés. C'est arrivé dans la biotechnologie, c'est arrivé dans la médecine. L'éthique dans l'informatique n'existait pas jusqu'à présent. On voit très bien que ça va extrêmement vite. Et c'est vrai que j'interviewais, moi, quelqu'un qui a des big data énormes, il a 150 millions de CV de personnes, parce que c'est un site de recherche d'emploi, et qui me disait que lorsqu'il y a eu ce problème de Facebook, justement sur la manipulation des sentiments, ils ont fait une journée de crise en se disant qu'est-ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qui fait, jusqu'où doit-on aller avec le big data. Et ils ont choisi une chose, ils ont choisi de contacter un chercheur dans une université, qui est maintenant un sociologue, qui travaille avec eux en permanence. Ouais. Donc, ce qui est intéressant...
Là aussi, vous le dites, le problème des sciences humaines, dans ce domaine, pour les analyser, les décrire et en tirer des conclusions aussi, pour la société.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut absolument que les sciences humaines s'emparent de ce thème. C'est vrai que c'est intéressant de voir que j'ai été contacté par différentes éditions, des éditeurs qui me disent il y a plusieurs livres en préparation, c'est formidable que plusieurs points de vue apparaissent, c'est en train de venir
ça
et c'est formidable.
Éric Sadin, allez, pour terminer.
Oui, il faut bien aussi relever le fait que nous sommes à un moment de l'histoire où l'intelligence artificielle devient extrêmement sophistiquée, elle permet non seulement de comprendre des situations collectives et individuelles de façon extrêmement rapide, mais aussi de gérer des situations d'un point de vue professionnel, et Steve Jobs Bill Gates et Hawkins ont signalé, ont fait part de leur inquiétude
sur l'intelligence artificielle.
Voilà, sur le fait que, et ça aussi il faut le relever, que ces développements ininterrompus, parce qu'il y a presque quelque chose d'organique dans les développements de la technique, que même des métiers à haute qualification, et là il faut voir un peu des dimensions relativement inquiétantes et qui doivent poser des questions éthiques et aussi juridiques, non seulement que ça remplace les tâches de production industrielle par les robots, c'est très bien, pour la pénibilité, mais que même des tâches cognitives comme les médecins et les avocats, là, il y a un vrai problème civilisationnel.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, il y a Hawkins et Bill Gates
qui annoncent la fin du monde, quasiment.
Ils
disent seulement qu'il faut être cadré. Mais surtout, il n'y a pas que ces deux personnes-là. Il y a eu 700 autres chercheurs qui ont mis ça en place. Et en même temps, des nouvelles élites, 50 personnes, qui ont dit dans la Silicon Valley, attention, ce sont des personnes qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Donc on voit bien là l'opposition entre même des élites connectées d'un certain âge et qui commencent à dire attention, vous allez trop loin.
Allez, c'est là-dessus que nous terminerons. Merci beaucoup à tous les deux pour cette discussion et cet échange. Laure Bello, la déconnexion des élites aux éditions Les Arènes, et la vie algorithmique critique de la raison numérique, Éric Sadin aux éditions de l'Échappée.